On est donc, comme je vous le disais en début d'émission, aujourd'hui un peu révolté, un air de révolte, non j'exagère un peu, mais un air de révolte entre dans les studios. L'association B-Side, active dans le milieu du hip-hop marseillais, organise du 15 juin au 24 juin une rétrospective des films de Jean-Pierre Thorne. Ce révolté filmé, c'est le nom de cet événement, où l'on pourra découvrir ou redécouvrir le parcours cinématographique du réalisateur. Pour en parler dans le 6 à 7, quoi de mieux que d'accueillir Jean-Pierre Thorne lui-même, accompagné de Quinca. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très bien. Voilà. Oui.
Ça va, ça commence bien?
Oui, ça s'annonce bien.
Bon. B-Side, on en a parlé sur la grenouille parce que vous avez organisé le festival B-Side, tout simplement, il y a quelques mois. Mais aussi parce que vous êtes une asso qui encourage les initiatives culturelles, l'expression artistique et l'action citoyenne autour de la culture hip-hop. Est-ce que c'est bien résumé?
Oui, je peux même préciser. Donc, on a créé la structure il y a une dizaine d'années. En fait, on l'a montée avec des acteurs de la culture hip-hop à Marseille. Puis, en fait, on travaille chaque année sur différents projets. C'est pas des projets qu'on reconduit toutes les années, mais on fait de la formation, on fait des ateliers, de la transmission, on produit des disques, on produit des films et on fait de la diffusion. Et dans le cadre des activités de diffusion, en fait, on s'est dit qu'on allait monter des rétrospectives. Et pour commencer, enfin des rétrospectives annuelles, et pour commencer, on a choisi de travailler avec Jean-Pierre Thorne.
Et pourquoi?
Ah, c'est la question qu'on me pose tout le temps. Alors, pourquoi? Moi, j'ai un souvenir, c'est que je me rappelle avoir vu faire Kiffer les anges à Arte. Et pour moi, c'était le premier film français sur la culture hip-hop et je me suis dit, tiens, ça y est, on s'intéresse enfin à nous. Et je me suis dit, voilà, moi, ma première raison personnelle, c'est celle-là. Et puis, en fait, je fais moi-même des films. Et puis, un peu plus tard, j'ai découvert, enfin, il a continué à faire des films autour du hip-hop. Et moi, j'ai découvert son parcours qui, dans les usines, les grèves, 68, tout ça. Et je me suis un petit peu reconnue dans dans le ton qu'il utilise pour faire des films. Voilà, je trouvais que ça me ressemblait et que ça me représentait bien. Donc, voilà, c'était pour ça que je voulais aussi commencer avec lui.
Jean-Pierre, ça fait à peu près 40 ans que tu fais du cinéma.
Oui, oui, ça ne me rajeunit pas.
Non. Mais oui, tu abordes dans ta filmographie, qui est faite beaucoup de documentaires, mais aussi de fiction, les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux, par exemple dans Jeter dans la peau, un film qui a été tourné à Marseille, ou aussi Oser lutter, oser vaincre. Comment est-ce que tu es venu à t'intéresser au mouvement hip-hop?
Bah, justement, ça me paraît assez naturel, c'est-à-dire que les artistes du hip-hop sont en fait les enfants de mes potes d'atelier. Je veux dire par là que moi j'ai travaillé 8 ans à l'Alstom, à Saint-Ouen, après les événements de 68 où j'avais fait un film et je pensais que je trichais de parler de réalité que je connaissais finalement que de l'extérieur. Et donc j'ai fait un film que j'aime beaucoup, qui garde la pêche, enfin, et un film un peu inclassable sur qui s'appelle Le Dos au mur, qui raconte les grèves qu'il y avait, qui pose plein de questions aussi sur la crise du syndicalisme, la difficulté à mener des mouvements qu'on a vu encore récemment autour des retraites, la manière dont finalement on n'a pas gagné avec pourtant la puissance de la colère qui s'exprimait dans les rues. Donc tout ça pose force à s'interroger. Et ayant fait ces films, bon, c'est sûr que un jour j'ai rencontré à Lyon, j'étais en repérage pour un autre projet de film et j'ai découvert la breakdance et 200 danseurs, des milliers de jeunes qui venaient tout mélanger et tout. Il y avait une telle énergie, un tel enthousiasme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène vraiment important. Et c'est un peu ça qui est à l'origine. Bon, avant de faire Kiffer les anges, un autre film qui s'appelait Génération Hip-Hop, qui est un peu le début, parce que j'ai d'abord travaillé que sur la région de Lyon, pour mettre en avant tous les groupes qui ont fabriqué la culture hip-hop. Et c'est un jour, dans un débat, un public dit, mais quelqu'un dans le public s'adresse à Franck Delouise, que j'avais, bon, qui habite d'ailleurs ici en ce moment près de Marseille.
Et on peut rappeler qui est Franck Delouise.
Franck étant le musicien d'Actuelle Force, et donc celui qui a fait des musiques de plein de compagnies hip-hop et un chorégraphe, voilà. Et Franck faisait partie des Paris City Breakers, c'est-à-dire le groupe qui faisait l'émission de Sydney HIP HOP. Voilà. Et donc Franck, dans un débat qu'on avait avec le public, public, c'est lui qui a répondu à ma place, et c'est là que j'ai découvert, parce que les gens disent « mais pourquoi Jean-Pierre ?» Et moi j'ai dit « oui, c'est vrai, je suis plutôt génération rock », et Franck dit « oui, mais vous savez, je crois qu'en fait, il connaissait nos parents, quoi ». Et d'un seul coup, tout s'est éclairci dans ma tête.
Leurs parents, de ces gens qui faisaient du hip-hop, c'est, tu les as connus dans les ateliers, dans les usines?
Oui, c'est des copains immigrés, d'origine maghrébine, antillaise, ou français, enfin black blamber, et voilà, qui se faisaient chier, comme c'est pas possible, avec des salaires de merde, des conditions de travail insupportables à l'Alstom, la boîte où je bossais. Et en fait, leurs enfants ont gardé la même rage, mais avec une idée en tête, ne pas se refaire la trajectoire des parents. Et du coup, et après, même quand j'ai fait un film comme On n'est pas des marques de vélo, je crois que c'était ce qui m'a le plus motivé, au-delà de l'injustice qui est insupportable, du bannissement que vivait Bouddha, parce que c'est finalement un enfant de l'immigration. Il arrivait à 4 mois en France, et puis on l'a expulsé dans un pays qui n'était pas le sien, en Tunisie.
Sous le coup de la double peine.
Et en fait, j'ai fait ce film beaucoup pour son père, parce que son père me rappelait tellement mes potes d'atelier, des hommes droits qui venaient de la campagne, qui n'avaient pas les traditions ouvrières et qui étaient toujours à l'heure, au boulot, le matin, je ne sais pas comment dire, et qui ont tout donné à la France. Il s'est même, lui, au bout de 30 ans de travail en France, il a pris la nationalité française, et on expulse son gamin en disant, ben non, et alors que, donc on expulse un gamin de français, quoi.
Après qu'il a purgé sa peine.
Après qu'il ait fait ses 4 mois de prison, parce que de 4 ans de prison, ça aurait été mon gamin, au bout de 4 ans de prison, voilà, il avait le droit de reprendre sa place dans la société, la prison, et justement, je croyais, faite pour aider des gens à reprendre leur place dans la société ensuite. Or là, on l'interdit littéralement, c'est-à-dire, il était à vie, un fantôme, parce qu'après, il était rentré comme clandestin, et on a fait un film avec tous ses copains du hip-hop, parce que ça aussi, on dit toujours le hip-hop, ils ont rien dans la tête, ils sont apolitiques, c'est faux. Enfin, vraiment, tous les copains se sont mobilisés. Cool Chain, For My People, à l'époque, avait mis son staff musical. Farid Berki, Blaise, et de plusieurs villes de France étaient montés pour danser aux côtés de Bouddha pour qu'il ait ses papiers. Et on a gagné. Ça a mis 3 ans, mais on a gagné.
Ouais. Et puis on a gagné aussi un film que beaucoup de monde a vu, mais qui est quand même à revoir. C'est le 17 juin au Merlan. Dans l'exploration de ce milieu hip-hop, de cette culture, est-ce que toi, tu as retrouvé des... les choses que tu as vécues dans cette génération rock, comme tu disais, la génération 68, est-ce que tu as retrouvé cet engagement et cette révolte, ou est-ce qu'il y avait des différences? Est-ce qu'il y a des différences?
Oui, il y a des grosses différences, je pense. Et moi, ils m'ont appris beaucoup. Je pense que nous, on est un peu une génération de gâtés, d'enfants gâtés. On allait contre l'adversaire plus fort que nous en prenant des coups, et on croyait ça très révolutionnaire. Moi, ce que j'ai appris avec le hip-hop, c'est que face à un ennemi plus fort que nous, il faut savoir esquiver, l'art de l'esquive. Et je pense que je raconte toujours une anecdote qui m'a beaucoup frappé. C'est, je suivais Actuelle Force qui répétait au hall, et bon, naturellement, les appariteurs viennent faire chier parce que ça se passe au milieu des commerces, en sous-sol, ça dérange personne. Au contraire, tout le mouvement hip-hop est passé du monde entier, venir s'affronter à Actuelle Force dans les sous-sols des halles, et les appariteurs viennent les faire chier, les faire bouger, soi-disant ça gêne les commerçants, évidemment. Et moi, je me rappelle, j'étais avec Gabin, avec aussi avec Fox et tout, Karim Barouche, et je leur dis, mais pourquoi vous bougez? À un moment donné, vous êtes tellement nombreux, vous restez, et puis il y en a marre, quoi. Et ils m'ont dit, mais JP, qu'est-ce que tu te prends la tête? On va monter, puis au bout d'un quart d'heure, ils seront repartis, on va redescendre, c'est eux qui se fatigueront avant nous. Et d'un seul coup, ça fait tilt. Je me dis, mais ils ont raison. C'est l'art du roseau. Ça sert à rien de s'égosiller. Je pense que notre génération s'est beaucoup aigrie, a perdu beaucoup de force à vouloir rentrer tête baissée dans un ennemi qui n'avait qu'une idée en tête, nous casser. Voilà. Et donc le hip-hop est là. Et puis peut-être aussi le hip-hop m'a appris qu'il faut, quand on lutte, il faut savoir faire la fête, quoi. Il faut le faire dans la joie, dans le bonheur. Il faut créer du lien social. Et c'est pas simplement d'avoir des revendications. C'est de, voilà. Et donc, Moi, plus c'est allé, je vais dire, peut-être plus je me suis éloigné du militantisme gauchiste, on va dire, pour aller vite, bon, le terme est un peu raccourci, mais en me disant que finalement, il y avait une nouvelle génération qui luttait d'une autre manière, plus intelligente que la nôtre, et c'est ça qui m'a passionné, voilà. Et on a gagné pour Bouddha, donc ça prouve qu'on peut y arriver.
Bouddha, justement, on l'écoute au tout début de On n'est pas des marques de vélo quand il raconte son parcours. C'est les premiers instants de ce film.
Bah, 13 janvier 1997, c'était ma date de libération. Je pensais être libre comme tout le monde. Et ben là, non, il y avait une voiture de gendarme qui m'attendait pour m'emmener à l'aéroport. Et moi, je me disais que... Je doutais, je disais peut-être qu'ils vont me relâcher dans la porte, peut-être qu'il va avoir un vice de forme. Non, il s'est rien passé et on m'a emmené direct à l'aéroport. Et puis voilà, quoi. J'ai refusé le premier embarquement. Le commandant de bord, il est venu, il a dit il faut monter sans faire le bordel, sans... Puis moi, j'étais comme un fou ce jour-là. Je lui dis écoute, moi, je monte dans ton avion, je le retourne ton avion. Franchement. Et il y a un Tunisien qui était avec moi, il me disait mais non mais rentre, nanana. Je lui dis non je rentre pas, j'ai refusé. Je me suis dit quand tu refuses, tu passes devant un juge. Il te dit pourquoi tu refuses? Pourquoi vous avez refusé d'embarquer? Et toi tu lui réponds, parce que tu réponds ce que tu réponds. Et lui il te dit soit il te met en mandat de dépôt, c'est-à-dire tu repars en prison. Hein? Et ou soit il te fait une assignation à résidence. Moi j'ai vu ni l'un ni l'autre. Donc, j'en avais marre, un flic il est venu. M'embrouiller un peu le citron, c'est dans le cerveau. Il m'a dit ouais tu repars, tu reviens, t'as vu, toi t'es comme ça. Le mec, il me connaît même pas, il a dit mon ami quoi. Et j'en avais marre, je suis parti, je me suis dit, puis il y a ma grand-mère, elle est toute seule là-bas. On verra. Je suis parti, j'ai embarqué avec eux. Arrivé à Tunis, la misère, j'arrive. On vient, on me met à poil, on me fouille de partout. On vient, on me prend comme un animal, vas-y viens, on te prend une prise de sang. Ah, j'étais déphasé, moi je comprenais, j'ai l'impression que c'était un cauchemar, quoi, tu vois. Puis voilà, quoi, je me suis fait une raison de vivre là-bas. Je me suis dit, un jour ou l'autre, je reviendrai. C'était pas évident, quoi. J'étais pas habitué à ce climat-là, à ces gens-là, puis voilà, quoi. On s'y fait, on s'habitue à tout, hein. Mais bon, là, c'était vachement dur. Ça fait que je suis resté 9 mois. Et bon, voilà, quoi, je me suis dit que... Dieu, peut-être qu'il veut que je revienne, quoi. Peut-être c'était écrit, je sais pas. C'est bizarre. Et je suis revenu par Marseille, c'est-à-dire que ma pesanteur n'était pas encore finie, quoi. La date, tu vois, elle se finissait le 28 novembre. Il me restait 2 mois, donc tac, il a refait les papiers, tout ça. Je suis arrivé, quoi, ça juste sur un coup de nez, ça passe ou ça casse, tu vois. J'ai pris le bateau, normalement, t'as vu, avec un petit sac à dos, touriste. Je suis arrivé à Marseille, on est arrivé devant la douane. Il m'a pesé d'identité, vous avez rien à déclarer. Je leur ai dit, si, un Fennec, en rigolant. Tac, tac, on est parti, je suis descendu, moi, j'en revenais pas, c'est pas possible. Quoique la veille, dans le bateau aussi, je demandais à Dieu, hein. Fais-moi passer, s'il te plaît, aveugle-les, mon Dieu. Puis voilà, quoi. 2 mois, les a aveuglés. Hein. Je suis arrivé, dès qu'on est arrivé, j'ai mis un petit son et j'ai embrassé le sol. Il fallait l'embrasser, ce truc comme ça. Je l'ai embrassé. Et voilà. Mais bon, c'est interdit, la justice, la double peine, tout ce qui en suit, là. Messieurs les députés, messieurs les machins, bah franchement, au lieu d'avancer, vous reculez. Hein.
C'était la parole de Bouddha qui ouvre ce film là. On n'est pas des marques de vélo, qu'on peut voir vendredi 17 juin au Merlan. Vous avez l'association de B-Side en partenariat avec le Merlan de le projeter là-bas.
Ouais.
C'est un film qui a été beaucoup projeté dans des cités, dans des quartiers. Je suppose, Jean-Pierre.
Oui, enfin, beaucoup dans des salles de cinéma aussi, puisqu'en fait, l'intérêt du film, c'était aussi que ça permettait à des amis du hip-hop de prendre la parole, Voilà, aux côtés d'associations traditionnelles comme la Ligue des droits de l'homme, le GISTI, la CIMAD, et le fait que cette histoire aujourd'hui, on envoie un gamin qui est français dans un avion, dans un pays qui n'est pas le sien, où on le détruit, il n'a aucun avenir là-bas, et que la République s'autorise à faire de telles saloperies, à un moment donné, bon, pour moi, il y a des rapprochements. Et donc, chaque fois, j'essaye de... Voilà, bon, c'est comme à la fin du film, Bouddha, il n'arrivait pas à lâcher l'idée. Bah, quand même, il a fait des grosses conneries. Il a dealé dans son quartier. À un moment donné, c'est normal aussi qu'il en paye les conséquences. Et donc, il a fait 4 ans de prison. Mais il sous-estimait. Il dit non, mais c'est pas grave, j'ai pas. Et avec les autres danseurs, on l'a pris entre 4 yeux. Il dit Ahmed, là, tu t'arrêtes de déconner. T'as fait des conneries. Bon, et moi, je reconnais à tout être humain le droit de refaire sa vie. Mais ne dis pas non plus que t'as rien fait. Et moi, je pensais que le film était raté. Si. Et donc, il a dit, bon, d'accord. Bon, et alors, je l'ai emmené dans un endroit que j'avais repéré, qui est au-dessus de chez lui, dans des herbes. Et j'attendais exprès le coucher du soleil. Donc, quand il va arriver à la fin, il est dans le soleil. Et là, il m'a échappé. Et c'était magnifique. Parce qu'il a dit, bon, je demande pardon à mes parents, du mal que je leur ai fait. Enfin, il a lâché sa valda, on va dire. Et il a vraiment été lui-même. Mais à la fin, d'un seul coup, il se redresse. Il dit, finalement, elle est belle, ma vie. Alors là, moi, j'étais sidéré. Je continue à filmer. Il me dit, parce que j'ai mal démarré. J'ai bien démarré. Il était dans l'émission d'HIP et HOP. J'ai fait des conneries, donc j'ai payé. Et puis maintenant... grâce à ça, les gens vont peut-être ils vont ouvrir les yeux. Et c'était ça, en fait. Il nous racontait pourquoi il faisait le film et que peut-être grâce à son histoire, le double peine va disparaître. Et je trouve ça formidable, justement, quand les personnages sont pris dans une ambiance où, à un moment donné, ils échappent à l'histoire dans laquelle on les a mis.
Qu'ils auraient envie de raconter,
voilà.
Au départ.
Et du coup, c'est ça qui est formidable dans le cinéma. Il y a une espèce de choses qui ne se passera jamais deux fois.
Quoi. Voilà, ouais.
Parce que filmer avant tout, c'est finalement une lutte contre la mort. Et il se passe quelque chose qui ne se reproduira jamais deux fois, qui est unique. Quoi. Et ce moment où il m'échappe dans la lumière, et c'est un moment où j'échappe pas à la chair de poule, même quand je le vois.
C'est très beau.
Parce que, voilà. Et après, je mets une chorégraphie qui est avec du sang. C'est contre un mur qu'on a filmé dans le Nord, une chorégraphie de Farid Berki, avec deux danseurs, avec ce danseur black qui est puissant et qui tient la petite moustique de Bouddha qui tourne autour, qui veut s'échapper. Et en fait, pour nous, quand on l'a fait avec Farid Berki, cette chorégraphie, Farid pensait que c'était, on parlait de la cam qui finalement tenait toujours. Mais après, on s'est dit, c'est peut-être le destin. Il veut échapper à son destin social et toujours qu'il le rattrape. Et du coup, cette chorégraphie, c'est ça qui est fort avec la danse, c'est que ça universalise tout de suite un propos, quoi. Et du coup, ce film, moi, je l'aime beaucoup, justement, parce qu'il y a sans arrêt ces correspondances entre le réel et la fiction. Et donc, c'est un film qui a beaucoup circulé. À cause de ça, quoi. Ouais.
Et qu'on peut voir, j'invite vraiment tout le monde à y aller, c'est le 17 juin au Merlan, donc, mais pas seulement les autres films qui sont présentés. On fait un petit... Oui.
Et au Frévalon.
Ouais,
c'est ça,
il passe aussi le 21 juin au collège Frévalon, en fait. À l'intérieur du collège, en fait, dans l'amphithéâtre, on a l'occasion de repasser ce film, avec des élèves,
qui vont sûrement le découvrir pour la première fois,
ouais.
Et qui auront sûrement des réactions parce que Jean-Pierre, tu assistes à toutes les projections.
J'assiste à toutes les projections, ouais, parce que je trouve que c'est tellement formidable que tous mes films soient présentés. Donc je suis vraiment très très reconnaissant à The B-Side d'avoir eu ce courage là parce que la Cinémathèque française a voulu le faire à un moment donné, puis il y a eu des ordres pour pas qu'elle le fasse, donc on voit quand même qu'on est dans un pays bien tenu en main. Et donc je trouve que voilà, une association, et en plus le faisant dans du plein air, dans des lieux éclatés sur la ville, je trouve ça tellement formidable. Je remercierai jamais assez Queen Cad d'avoir fait ça.
Ouais. On la remercie aussi.
Un beau cadeau. Ouais.
Une rétrospective après 40 ans de cinéma, peut-être dernière petite question pour terminer. Ouais. C'est pas une conclusion. C'est quoi le projet en cours, la prochaine façon
C'est surtout que je sors mon dernier et que là c'est pareil. Je me bagarre contre les salles où je trouve il y a aujourd'hui en France, chez les programmateurs de salles, un mépris de la culture hip-hop, un mépris de ce qui vient des quartiers et tout. Et donc j'ai beaucoup de mal. À Marseille, on a pu le passer à la l'Alhambra, c'est 93, La Belle Rebelle.
Voilà. Mais en plus, c'est pas seulement sur le hip-hop, en plus, on pourrait
penser
que...
Là, c'est vraiment... C'est ça qui est intéressant. Enfin, l'intérêt pour moi dans ce film, c'est de faire l'histoire de ce qu'il y avait avant le hip-hop, donc le rock, le punk, et voir tout. Comment c'est construit en Seine-Saint-Denis. Oui, parce que tous mes films aussi, je pars toujours d'un cas particulier, d'un personnage, Bouddha, d'une usine, l'Alstom, du 93. Mais au-delà du 93, c'est la question des banlieues et c'est la question des quartiers populaires et de la jeunesse qui veut prendre sa place. Et ce film est en train beaucoup de tourner en France. Ça, je dois être autour de ma 90e projection, enfin de salle même, on va dire, parce que à Paris, il est resté cette semaine à l'affiche. Et donc voilà, je suis très très heureux de le présenter en plus en plein air.
Alors, voilà, ça, c'est le 24 génial. Juin à la Busserine. On vous invite à y aller, à aller voir le programme sur c'est quoi, thebside.org. Voilà, j'aurais bien aimé en parler encore une heure avec vous, mais malheureusement, on va s'arrêter. Merci.
Je suis bavard.
Non, mais c'est...
C'était avec plaisir.
C'est un plaisir. Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Merci de votre accueil.
Bonne rétrospective.
On écoute un petit NTM pour rester dans l'ambiance.
Dédicace.
That's My People, respect. Sur le 6 à 7 dans le 88.8. Merci.
Ça vient d'en bas et puis quand c'est pas pour finir léger, trop sophistiqué c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole. Position peu confortable mais c'est pas grave, j'aime le challenge. Porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes comparses. Fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. I make music for my people, cause that's my people. Mes kiffs c'est de chiller, rester tranquille au sein des miens, me laisser aller à déballer. Les conneries parlent juste pour parler. On fait le monde avec notre vision décalée. On est des faux, bloqués dans des cages d'escalier, pris en otage par le nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées dans les yeux fatigués des gosses du quartier. Passe le mic, je développe mes idées contaminées. C'est vrai, je suis miné, déterminé à ne jamais vraiment lâcher l'affaire. Qu'est-ce que tu peux faire? Je suis pas là pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN brandit sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, de gêner, juste un lyrique qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon poissé. Excuse au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage assuré. C'est vrai, je me sens rassuré. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je veux que tous mes potes puissent s'y retrouver. Je veux pouvoir les garder près, moi les regarder 12 mois par an, comme l'ont fait mes parents pour moi. Parce qu'après, c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont ibas. Au pire, c'est que t'as envie de pleurer. Plutôt que tu sais pas, dans ce cas je peux rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur, j'ai même jamais été à la hauteur pour ce genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné.